J'imagine que pas un seul d'entre nous n'a pu trouver le sommeil ce matin-là. Car tant l'excitation entraînée par la découverte de Lake que la fureur croissante des éléments conspiraient contre nous. Même là où nous étions, les bourrasques étaient si violentes que nous ne pouvions nous empêcher de nous demander ce que devait endurer le camp de Lake, lui qui se trouvait juste en dessous des immenses cimes inconnues qui les engendraient. MacTaggy s'est levé à 10 heures et a tenté de contacter Lake par radio comme prévu. Mais une perturbation électrique dans l'air semblait empêcher toute communication. Néanmoins, ce phénomène devait être cantonné à l'ouest, car nous avons réussi à avoir l'Arkham, où Douglas m'a confirmé qu'il n'avait pas non plus réussi à contacter Lake. Il ignorait tout de la tempête, car bien qu'elle continuât de faire rage au-dessus de nous, de son côté, au détroit de McMurdo, le vent soufflait à peine. Tout au long de cette journée, nous sommes restés autour de la radio à nous ronger les sangs. Nous avons tenté de contacter Lake à intervalles réguliers, toujours en vain. Vers midi, la tempête soufflant de l'ouest a redoublé de fureur, nous faisant craindre pour la sécurité du camp, mais le vent a fini par se calmer avec une légère rechute momentanée vers 14 heures. Après 15 heures, le calme est revenu, et nous avons redoublé d'efforts pour joindre Lake. Étant donné qu'il disposait de 4 avions, chacun équipé d'une excellente radio à ondes courtes, il était impossible d'imaginer qu'un accident quelconque ait pu rendre inutilisables tous ses instruments en même temps. Néanmoins, ce silence ne cessait de s'épaissir, et en pensant aux bourrasques délirantes qui devaient avoir balayé les alentours de son camp, nous ne pouvions nous empêcher d'imaginer le pire. Vers 18 heures, nos craintes s'étaient muées en angoisse, et après une consultation par radio avec Douglas et Thorfinnsen, j'ai résolu de prendre les mesures nécessaires pour en avoir le cœur net. Le 5e aéroplane que nous avions laissé au camp de ravitaillement de McMurdo, avec Sherman et 2 marins, était en parfait état et prêt à partir. Nous l'avions gardé en cas d'urgence, et c'en était indéniablement un. J'ai contacté Sherman par radio et lui ai ordonné de me rejoindre le plus vite possible à la base sud, avec l'avion et les 2 marins, comme les conditions aériennes semblaient favorables. Puis nous avons discuté de la composition du groupe de recherche et décidé que tous les hommes en feraient partie, ainsi que les traîneaux et les chiens que j'avais conservés avec moi. Une telle charge ne serait pas excessive pour un de ces gros avions construits spécialement pour le transport de machines lourdes, conformément à nos spécifications. De temps en temps, j'essayais à nouveau de contacter Lake, mais toujours en vain. Sherman et les marins Gunnarsson et Larsen ont décollé à 19h30, et leurs rapports effectués en vol n'ont signalé aucun problème. Ils ont atteint notre base à minuit, et tout le monde a alors débattu de l'étape suivante. Traverser l'Antarctique dans un seul aéroplane sans base intermédiaire était risqué, mais personne n'a reculé devant ce qui apparaissait comme une pure nécessité. À 2 heures, après avoir partiellement chargé l'avion, nous avons tenté de prendre un peu de repos, mais à 4 heures, nous étions à nouveau à pied d'œuvre pour finir de charger l'appareil et faire nos bagages. Le 25 janvier, à 7h15, nous avons décollé pour partir vers le nord-ouest. MacTaggy était aux commandes et l'avion emportait 10 hommes, 7 chiens, un traîneau, une réserve d'essence et de nourriture et d'autres fournitures, y compris la radio de bord. L'atmosphère était claire et plutôt paisible et nous pensions pouvoir atteindre sans problème la latitude et la longitude indiquées par Lake. Nous redoutions bien plus ce que nous pourrions trouver ou ne pas trouver au bout de notre voyage, car à chaque fois que nous tentions d'appeler le camp, seul le silence nous répondait. Le moindre incident qui s'est produit durant ce voyage de 4 heures et demie restera gravé à jamais dans ma mémoire, car celui-ci occupe dans ma vie une position cruciale. À l'âge de 54 ans, je devais perdre la paix et l'équilibre que possède un esprit normal grâce à sa conception coutumière de la nature et de ses lois. À partir de ce moment, notre groupe de 10 hommes, l'étudiant Danforth et moi-même toutefois plus que n'importe qui, allions nous trouver face à un monde d'horreur furtive, hideusement amplifié, que rien ne pourrait plus jamais effacer, et que nous préférerions éviter tant que possible de partager avec le reste de l'humanité. Les journaux ont reproduit les bulletins que nous avons envoyés depuis l'avion en vol, racontant notre trajet sans escale, la façon dont par 2 fois nous avons dû lutter contre des bourrasques ascendantes, comment nous avons entrevu la surface fragmentée où Lake, à mi-chemin de son propre trajet, avait effectué des forages, ainsi que la vision d'un groupe de ces étranges cylindres de neige pelucheux qui, comme l'ont également remarqué Amundsen et Bird, roulent au gré du vent sur toute l'étendue de ce plateau gelé. Néanmoins, nous en arrivions à un stade où nous étions incapables de traduire ce que nous ressentions en des termes compréhensibles par la presse. Plus tard, vint le moment où nous avons décidé d'adopter une règle stricte d'autocensure. Le marin Larsen fut le premier à apercevoir la ligne déchiquetée de cônes et de pics ensorcelés droit devant nous, et ses cris ont fait accourir tout le monde vers les hublots de la grande cabine. Malgré notre vitesse, ils étaient vraiment lents à apparaître, ce qui montrait qu'ils devaient être encore très loin, visibles uniquement à cause de leur taille extraordinaire. Cependant, peu à peu, nous les avons vus s'élever, sinistres, dans le ciel de l'ouest, nous permettant de distinguer leurs sommets noirâtres, nus et décharnés, et d'effleurer le curieux sens d'irréalité qu'ils inspiraient alors qu'ils se détachaient sur fond de nuages iridescents dans la lumière rougeâtre de l'Antarctique. Ce spectacle suggérait une vague impression persistante de secrets et de révélations potentielles, comme si ces flèches de cauchemar ornaient les pylônes d'un terrifiant portail donnant sur les sphères interdites du rêve et sur des gouffres complexes au fond de l'espace, du temps et des dimensions. Je ne pouvais m'empêcher de voir en elles des entités maléfiques, des montagnes hallucinées dont les pentes surplombaient quelque abîme ultime et maudit. Cet arrière-fond de nuages bouillonnants et à demi-luminescents suggérait un vague au-delà, éthéré, situé dans un espace tout autre que terrestre. Cela nous rappelait de façon déprimante à quel point ce monde étranger, inviolé et inexploré était marqué par l'éloignement, la solitude, la désolation et par une mort vieille de bien des éons. C'est le jeune Danforth qui a attiré notre attention sur les curieuses structures régulières qui ornaient les plus hauts sommets, rappelant les fragments de cubes parfaits que Lake avait mentionnés dans ses messages et qui justifiaient vraiment sa comparaison avec les images oniriques de ruines de temples primitifs perchés sur les sommets nuageux de montagnes d'Asie que Roy Rich avait peints avec tant de subtilité et d'étrangeté. Vraiment, ce continent est réel, aux montagnes mystérieuses, portait la patte de Roy Rich. Je l'avais ressenti en octobre lorsque nous avions aperçu pour la première fois la terre de Victoria, et c'était à nouveau le cas. J'ai également eu un sentiment de malaise en prenant conscience de la ressemblance avec les mythes archéens et de la troublante correspondance entre ce royaume de mort et le plateau de Leng, des écrits primitifs à la sinistre réputation. Les mythologues ont situé Leng en Asie centrale, mais la mémoire raciale de l'homme ou de ses prédécesseurs est longue, et il est bien possible que certains contes soient venus de pays, de montagnes et de temples de l'horreur plus anciens que l'Asie, plus anciens même que toute humanité connue. Quelques audacieux mystiques ont proposé une origine antérieure au Pléistocène pour les fragmentaires manuscrits pnakotiques et ont suggéré que les adorateurs de Tsatoga étaient aussi étrangers à l'espèce humaine que Tsatoga lui-même.